Bonsoir à chacun et bonne écoute. Pour cette étude biblique audio, nous sommes au début du mois. Nous allons donc reprendre notre série dans le livre des Actes. Et ce soir, nous allons étudier le thème de la prière dans le livre des Actes. Mais avant cela, tout de même une introduction à ce thème. Depuis Genèse chapitre 4, verset 26, au moins, et très certainement déjà avant, les êtres humains prient. Alors pourquoi ce verset? Je vous le lis. Il s'agit de Seth, le fils d'Adam et Ève. Seth, à son tour, eut un fils. Il l'appela Énos. C'est alors qu'on commença à prier le Seigneur en l'appelant par son nom. Alors est-ce le début de la prière? Ou est-ce simplement le verbe qui est traduit par c'est à ce moment-là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel ou à appeler le nom de l'Éternel. C'est un verbe qu'on pourrait très bien traduire c'est à ce moment-là qu'on a recommencé à. Ou alors s'agit-il d'une forme de prière spéciale avec le nom, l'emploi d'un nom divin précis. Voilà, en tout cas, les êtres humains prient depuis les origines. Les croyants de l'ancienne alliance priaient, évidemment, nous avons dans tout l'Ancien Testament même un livre entier de 150 prières, le livre des psaumes. Les premiers chrétiens priaient, et nous aussi, nous prions. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le cœur des êtres humains un vide en forme de Dieu, comme le disait le philosophe chrétien Pascal. Au tréfonds de leur âme, les créatures de Dieu que nous sommes, créatures de Dieu créées à l'image de Dieu, ont besoin d'un contact avec celui qui est leur créateur. De tout temps, la religion, la spiritualité, la recherche du contact avec un être transcendant et donc la prière ont fait partie du quotidien des hommes et des femmes. Alors pour cette étude, nous n'allons pas nous intéresser au phénomène de la prière en général, mais nous allons nous cantonner aux mentions de la prière dans le livre des Actes. Nous ne dirons donc pas tout de la prière, nous ne dirons même pas tout de la prière chrétienne. Des livres entiers ne suffiraient pas pour dire ce qu'est la prière. Ceci dit, certains ont tenté une définition, et voici celle de Charles Spurgeon. La prière est le navire qui revient au port chargé du plus riche fret. C'est le terrain qui rapporte à celui qui le cultive la plus abondante moisson. La prière, c'est à la fois une attitude et un moyen de communiquer avec Dieu. Certains ont dit que la prière était la respiration du chrétien. D'autres ont dit que c'était son métier, ça c'est Luther qui disait ça, il disait tout comme le cordonnier répare et fabrique des chaussures, c'est son métier. Eh bien, de la même façon, le métier du chrétien, c'est de prier. On peut prier de multiples manières, seul ou ensemble, dans son cœur ou à haute voix. Et puis il y a différents types de prières, reconnaissance, requête, supplication, intercession, écoute, silence, etc. La prière est bien présente dans le livre des Actes des Apôtres et sous plusieurs formes. Dès le premier chapitre, les disciples prient. C'est cette prière, dans la chambre haute, après l'ascension, juste avant la Pentecôte, et leur prière aussi afin d'obtenir la direction de Dieu dans le choix du successeur de Judas, qui a été exaucé par le choix et la nomination de Matthias pour compléter l'équipe des 12. Alors voici les références qui mentionnent la prière ou le verbe prier, et vous allez vous en apercevoir, elles sont abondantes dans le livre des Actes. Chapitre 1, deux mentions de la prière. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 6, deux mentions. Chapitre 7, chapitre 8, deux mentions. Chapitre 9, 2 mentions. Chapitre 10, 3 mentions. Chapitre 11, chapitre 12, 2 mentions. Chapitre 13, chapitre 14, chapitre 16, 3 mentions. Chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22, chapitre 27, chapitre 28. Quasiment dans chaque chapitre, vous l'aurez remarqué à cette énumération. Dans ces références, il y a différents types de prières faites dans des circonstances très diverses, et je vous propose dans une première partie de voir cela, quels sont les motifs, les objets et les circonstances des prières, et au fil des textes, nous allons également souligner quelques aspects importants. Et c'est avec la première mention de la prière dans le livre des Actes que nous allons tirer le plus d'éléments. Je vous lis Actes chapitre 1 verset 14. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans une autre traduction de ce verset, on peut lire que les disciples persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cette première mention de la prière dans le livre des Actes montre que la prière est bien présente dans la vie de la communauté des premiers disciples. Le texte ne dit pas seulement qu'ils priaient, mais qu'ils persévéraient dans la prière. Dans la version que je vous ai lue aussi en tout premier, qu'ils priaient régulièrement. Cela implique que les premiers disciples se sont réunis à plusieurs reprises en attendant l'Esprit que Jésus leur avait promis. Il leur dit au verset 5 du livre des Actes, « Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Et un peu plus loin, « Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous, vous serez alors mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Les disciples étaient donc dans l'attente de cette promesse et puis pendant les 10 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte, alors nous, on sait que effectivement, ça a été 10 jours pour les disciples, ils n'avaient pas forcément idée que le Saint-Esprit viendrait lors de la fête de la Pentecôte, 10 jours après que Jésus soit monté au ciel. Ça aurait pu être plus court, ça aurait pu être plus long. Jésus leur donne une petite indication, il leur dit « dans quelques jours ». Les disciples étaient donc dans l'attente et avaient pris la bonne habitude de se retrouver dans une pièce à l'étage d'une maison pour prier. Et là, je vous lis le verset 13. « Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude le fils de Jacques. » Donc ils étaient dans cette chambre à l'étage d'une maison, la chambre haute. Alors bien sûr, il est possible de prier en tout lieu, mais il est commode et même bon d'avoir ses habitudes en matière de prière. Certes, Jésus a dit qu'il n'est pas nécessaire d'adorer Dieu au temple ni sur une montagne à la Samaritaine, car ce qui compte, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce qui compte, d'après le sermon sur la montagne, c'est ce lieu secret dans lequel on rencontre Dieu, que cela soit individuel ou en communauté. Ceci dit, on retrouve à plusieurs reprises la mention d'un lieu habituel pour prier. Dans les évangiles, Luc 5, 16, vous pourrez prendre cette référence, ou Luc 22, 39, par exemple. Mais également dans le livre des Actes. La chambre haute, dont il est question en Acte 1, verset 13, mais un peu plus loin, dans Acte 2, 46, dans la cour du temple. En Acte 12, dans la maison de Marie, pas la maman de Jésus, mais la maman de Jean. Pas Jean le disciple non plus, mais Jean-Marc, Jean qui est surnommé Marc. Et puis aussi ce lieu de prière près d'une rivière à Philippe, Actes 16, 13 et 16. Voilà une petite remarque déjà en passant qu'on peut retirer de cette première mention de la prière, cette habitude de prier dans un lieu donné. Et là, il s'agit même d'une habitude de le groupe des premiers disciples. Donc, un acte de prière communautaire dans un lieu habituel. Le passage qui décrit la vie communautaire de la première église à Jérusalem mentionne deux fois la notion de persévérance. C'était noté dans Acte 1, verset 14. Hein, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Cette notion de persévérance est répétée dans la description de la vie de la première église à Jérusalem. Hein, ils persévéraient, vous le savez, dans un certain nombre de domaines. Prier, ça n'est pas un acte unique. Nous sommes appelés à prier sans cesse, c'est-à-dire rester dans un esprit de prière, dans la communion avec Dieu. La prière est un acte qui se répète, une discipline, diront certains. L'apôtre Paul enseignera cela à plusieurs reprises dans ses épîtres. Persévérez dans la prière, Romains 12, 12. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, Colossiens 4, 2. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. Voilà le deuxième élément déjà de cette première mention de la prière, la persévérance dans la prière. Mais ce verset nous dit encore une autre chose. Ils priaient, les premiers disciples réunis priaient d'un commun accord. Le mot grec utilisé ici est homotumadon. C'est un terme que l'on trouve 11 fois dans le Nouveau Testament, dont 10 fois dans le livre des Actes, la seule autre mention étant en Romains 15, verset 6. Ce mot est composé de homos, qui signifie ensemble, et de thumos, qui se rapporte au souffle. Alors, homos, ensemble, ou même, hein, de même nature, hein, et de thumos qui se rapporte au souffle. Et la meilleure traduction de ce terme grec est d'un même accord. Les frères de Jésus qui étaient présents, qui, pendant le ministère public de Jésus, ne croyaient pas en lui, sont désormais présents parmi les disciples réunis et ils prient ensemble d'un même accord avec les autres disciples. Ils sont sur la même longueur d'onde, pourrions-nous dire. Et nous retrouverons ce terme dans d'autres passages encore, notamment chapitre 2, verset 1 dans certains manuscrits, chapitre 2, verset 46, chapitre 4, 24, et deux fois dans la fameuse conférence de Jérusalem en acte 15, verset 25 et 28. Et là, j'en ai passé, on le trouve encore à d'autres reprises. Justement, nous allons maintenant aller un petit peu plus loin que le chapitre 1 du livre des Actes et nous intéresser au chapitre 4, car c'est dans ce chapitre que nous allons lire maintenant les versets 24 à 31. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un même cœur, homotumadon, cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur, « Les peuples se sont agités, mais pourquoi ? Les pays ont comploté, mais c'est en vain. Les rois de la terre se sont préparés au combat, et les dirigeants se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a mis à part. » Et c'est bien vrai, Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des populations étrangères et du peuple d'Israël contre ton serviteur Jésus, celui que tu as choisi pour ton service. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance par des guérisons, que des signes extraordinaires et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus, lui qui est saint. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà la plus longue prière du livre des Actes. Les croyants rassemblés demandent d'un commun accord l'assurance pour annoncer la bonne nouvelle, malgré la menace des autorités et la persécution qui se profile. Ils demandent également que Dieu intervienne avec puissance. Et le verset 31, le dernier que nous avons lu, nous montre qu'ils ont été exaucés, la terre tremble, et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Ce passage m'a toujours impressionné, et je me pose la question suivante, qu'aurions-nous demandé à leur place? Que la persécution s'arrête, ou bien que nous ayons le courage de continuer à témoigner malgré les risques? Il n'est pas forcément dans le plan de Dieu que la persécution s'arrête. Dans certains cas, alors qu'elle s'arrête un jour, oui, mais qu'elle s'arrête maintenant ou dès qu'on le demande, pas forcément. Dans certains cas, nous constatons que ce sont justement les épreuves et la persécution qui poussent le peuple de Dieu à s'unir dans la prière. Quand Pierre est emprisonné, en acte 12, l'Église se réunit pour prier. Quand Paul et Silas sont en prison, ils prient et louent Dieu. Quand Étienne est lapidé, il prie pour ceux qui le mettent à mort. Là encore, qu'aurions-nous prié dans ces situations? La foi et les prières des premiers chrétiens sont des modèles pour nous aujourd'hui. Une autre chose qui nous pousse à prier, c'est lorsque nous sommes face à des décisions à prendre. Et il y en a eu dans le livre des Actes. La toute première, au chapitre 1, il fallait choisir un 12e disciple. En acte 6, choisir des personnes pour servir aux tables de façon équitable, c'est ce que Paul appellera plus tard des diacres. En acte 13, pour envoyer Saul et Barnabas en mission. En acte 14, pour désigner des anciens. Remarquons que le fait d'ailleurs de choisir des personnes pour servir aux tables permet aux apôtres, nous dit le texte, d'avoir davantage de temps pour la prière et l'enseignement. Souvent on retient que oui, il fallait qu'ils soient plus libres d'enseigner, d'annoncer la parole de Dieu, mais le texte dit bien que c'était pour que les apôtres soient plus libres pour la prière et l'enseignement. Ce passage souligne l'importance de la prière, notamment pour ceux qui sont enseignants dans l'Église, mais pas que. Bien évidemment, la prière est importante pour tous, que l'on soit responsable d'un service dans l'Église ou non. Enfin, la prière est quelquefois un temps fort émotionnellement dans notre vie. Et nous avons aussi cette réalité présente dans le livre des Actes. Lorsque Paul et Barnabas prient avec les anciens d'Éphèse à Millet dans acte 20, je vous lis versets 36, 37 et 38. Après ces mots, Paul se mit à genoux avec eux et pria. Tous pleuraient et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ils étaient surtout attristés parce que Paul avait dit qu'il ne le reverrait plus. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Or le contenu de la prière n'est pas donné, mais on peut supposer qu'il est en quelque sorte ce contenu de la prière de Paul, résumé quelques versets plus haut en acte 20, 32. « Et maintenant je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de vous fortifier dans la foi et de vous accorder l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. » Il s'agit d'une prière d'adieu, comme c'est le cas aussi au chapitre suivant avec les chrétiens de la ville de Tyr, acte 21, verset 5. Mais une fois cette semaine achevée, nous nous sommes remis en route. Ils nous accompagnèrent tous avec les femmes et les enfants jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes agenouillés au bord de la mer et nous avons prié. Enfin, n'oublions pas de mentionner tout de même la prière pour les malades. Pierre qui prie au nom de Jésus pour le boiteux, qui mendiait devant la porte de la cour du temple, en acte 3. Pierre qui prie pour la résurrection de Dorcas, en acte 9. Et puis Paul qui prie pour le père malade de Publius. La prière fait partie du quotidien de la vie des disciples de Jésus. Le livre des Actes ne nous permet pas d'en douter. Elle est mentionnée dans toutes sortes de circonstances, même avant de prendre un repas sur un bateau en péril. Et là, je vous lis acte 27, verset 35. Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le partagea et se mit à manger. Voilà cette circonstance tout à fait particulière aussi dans laquelle Paul, malgré tout, rend grâce à Dieu pour le repas qu'ils vont pouvoir prendre à ce moment, alors que le bateau est déjà en danger. Alors voilà, différentes circonstances dans lesquelles et différentes raisons pour lesquelles les premiers disciples ont prié. Qu'en est-il des exaucements? Eh bien, la plupart du temps, il est vrai, dans le livre des Actes, nous constatons que les prières sont exaucées. Certaines prières sont exaucées immédiatement. La prière d'acte 4, immédiatement, dès qu'ils avaient fini de prier, ou ils étaient même peut-être encore en train de prier, la terre s'est mise à trembler et ils ont annoncer la parole de Dieu avec assurance, comme c'était l'objet de leur prière. Mais cela reste un mystère. Je pense que la prière et les exaucements de prière restent pour nous un petit peu mystérieux. La prière ne fait pas que répondre à notre besoin de relation avec Dieu. Je le disais en introduction, l'homme a ce vide et il aspire à cette communication, cette relation avec Dieu au fond de lui, puisqu'il est une créature dépendante de son Créateur. Mais donc la prière répond à un besoin, mais la prière ne répond pas que à notre besoin de relation avec Dieu. Elle est aussi un moyen que Dieu a choisi pour accomplir son plan. Alors bien sûr, Dieu n'est pas limité par nos prières et il accomplira son plan, que nous y prenions part avec nos prières ou non. Mais toujours est-il que dans le plan de Dieu s'inscrivent un certain nombre d'exaucements de nos prières. L'exaucement le plus spectaculaire dans le livre des Actes est sans doute l'événement de la Pentecôte. Les premiers disciples, au nombre de 120, persévéraient dans la prière et attendaient la venue de l'Esprit promis par Jésus. La promesse de Jésus s'accomplit alors que les disciples vivaient depuis plusieurs jours dans un esprit de prière et dans l'obéissance. La suite, vous la connaissez, Pierre parle devant une foule nombreuse et 3000 personnes se convertissent. Alors le texte des Actes ne dit pas que les disciples ont été exaucés. On ne sait pas exactement quel était le contenu de leur prière, mais on constate que c'est pendant un temps de prière que l'Esprit Saint est descendu sur les disciples réunis. C'est aussi à l'heure de la prière que Pierre et Jean rencontrent et guérissent le boiteux devant la porte de la cour du temple. C'est encore pendant un temps de prière que Pierre reçoit une vision. Et enfin, c'est pendant la prière que l'Esprit parle à l'église d'Antioche pour mettre à part Paul et Barnabas. C'est pendant que l'église priait que Pierre toque à la porte, etc. Il s'en passe des choses pendant les temps de prière. De retour à Lystre, à Icône et à Antioche, Paul et Barnabas prièrent pour ceux qui avaient cru. L'un d'eux était Timothée. Était-ce en réponse à ces prières que Timothée a pu rejoindre Paul et Silas lors du deuxième voyage missionnaire, On peut le supposer. En tout cas, tout est écrit dans les actes pour que nous comprenions bien que Dieu entend nos prières et qu'il y répond selon sa volonté. Nous sommes encouragés de savoir que notre prière compte pour Dieu. Enfin, une remarque. Le livre des Actes rapporte à plusieurs reprises que des hommes furent remplis du Saint-Esprit. À au moins six reprises, à la Pentecôte, pour parler avec assurance, annoncer la parole de Dieu avec assurance, pour servir aux tables en acte 6, avant de mourir, le cas d'Étienne dans acte 7, verset 55, pour encourager, c'était le ministère de Barnabas en acte 11, 24, et puis pour reprendre en acte 13, verset 9. Dans toutes ces références, la plénitude du Saint-Esprit est mentionnée en relation étroite avec la prière. Dans toutes ces références, sauf une, celle de acte 11, 24, l'encouragement de Barnabas. On remarque que la plénitude de l'Esprit précède la prière dans au moins deux cas. Pierre qui comparaît devant les chefs du peuple et Étienne juste avant de mourir. Être rempli de l'Esprit ne dispense pas de la prière, bien au contraire. La plénitude de l'Esprit précède la prière dans au moins deux cas. Et en acte 6 aussi, nous voyons que ce sont pour des personnes remplies de l'Esprit que les apôtres prient. J'ai trouvé ce détail intéressant. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on prie. Et lorsqu'on prie, on est rempli de l'Esprit. Il y a là un cercle vertueux. Enfin, nous n'avons pas dit grand-chose d'une forme de prière qu'on pourrait appeler le silence ou l'écoute de Dieu dans la prière. Et pourtant, nous en avons quelques mentions dans le livre des Actes. Quelqu'un a dit que si Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Cela est un bon conseil dans la vie, tout court, mais aussi valable pour la prière. Pierre était en train de prier quand il a eu une vision, et dans la vision, c'est à ce moment-là que Dieu parle. Pierre a d'ailleurs l'occasion de dialoguer avec Dieu pendant ce moment si particulier. Et donc, on peut donc dire que la vision fait partie de la prière, au sens large, les deux dimensions de la prière, l'homme qui s'adresse à Dieu, mais Dieu qui s'adresse aux hommes. Et Dieu s'adresse là à Pierre par une vision. Et voilà, lorsque je prends le temps d'écouter Dieu aussi, je suis dans la prière. Prier, ce n'est pas uniquement s'exprimer devant Dieu, c'est aussi prendre le temps de faire silence et d'écouter. Quand était-ce la dernière fois que j'ai pris du temps pour écouter Dieu? Quelquefois, Dieu nous dit non. Cela a été le cas pour Paul et son équipe missionnaire. L'Esprit-Saint les a arrêtés dans leur projet d'itinéraire. Et là, je voudrais prendre acte 16. Nous allons lire les versets 6 à 10. L'Esprit-Saint les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Que Paul et son équipe missionnaire, hein, je vous rappelle l'emploi du pluriel et je fais un petit clin d'œil à l'étude du mois dernier, Paul et son équipe missionnaire ont été arrêtés par l'Esprit-Saint dans leur projet d'itinéraire. Ils ont été empêchés d'aller en Asie et en Bithynie. Paul a donc été arrêté plusieurs fois sur son chemin. La première fois, c'était le chemin de Damas, et là, dans ce voyage missionnaire. Et à chaque fois que Paul a été arrêté, il a reçu des instructions à suivre. Alors en acte 9, c'était d'aller trouver Ananias, etc. Et là, dans acte 16, Paul reçoit des instructions à travers une vision pendant la nuit, la vision du Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». L'équipe missionnaire discerne qu'il s'agit de la volonté de Dieu, puis y obéit en se rendant en Macédoine. Et là aussi, on peut constater qu'il s'agit d'un discernement collectif. On a encore une fois l'emploi du pluriel. Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. C'est aussi cela la prière, entendre la voix de Dieu, recevoir sa direction pour notre vie, discerner la voix de Dieu et y obéir. Quelques mots de conclusion à présent. La prière n'est pas un but à atteindre, elle est un moyen de perfectionnement, de découverte, d'aventure et de vie avec Dieu. L'action du Saint-Esprit dans nos vies ne se fait pas principalement pour satisfaire nos besoins. Le Seigneur désire avant tout nous façonner, nous tailler, on pourrait dire, comme le vigneron taille sa vigne, afin que notre adoration soit pure et abondante, que notre relation avec Dieu soit saine et authentique, que notre prière soit remplie de foi pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, ainsi que pour le monde dans lequel il nous a placés. Les différentes situations dans lesquelles la prière est mentionnée dans le livre des Actes nous montrent que cette dernière a sa place dans chacun des domaines de notre vie. Nous apprenons également que la prière compte pour Dieu, qu'elle entre dans son plan. À nous maintenant de continuer dans cette lignée, de prier avec foi, de nous attendre à Dieu, à nous décrire la prière d'acte 29. Enfin, comment ne pas terminer cette étude sur la prière dans le livre des Actes par la prière, et je vais maintenant prier pour nous. Notre Dieu, tu connais notre vie de prière, tu connais ses forces et ses faiblesses, tu vois notre persévérance dans certains domaines et notre manque de persévérance dans d'autres. Mais nous voulons venir à toi comme ce petit garçon qui t'a donné 5 pains et 2 poissons pour que tu multiplies le peu que nous avons et que nous voulons te soumettre, pour que notre foi grandisse, pour que notre vie de prière s'approfondisse. Merci pour l'assistance de l'Esprit qui prie avec nous, pour que nous sachions prier, Seigneur, selon ta volonté. Que notre volonté puisse de plus en plus être conforme à la tienne. Merci pour cette possibilité de nous adresser à toi, notre Créateur. Merci pour la possibilité aussi de prendre un temps à part pour faire silence et pour écouter ta voix. Donne-nous, Seigneur, le discernement et que nous soyons encouragés chacun dans notre vie de prière. Amen.